J'aimerais que nous lisions un extrait de la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 4. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 4. Il est écrit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous lorsque Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons connu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ensuite, j'aimerais lire deux autres versets dans le chapitre 6 de l'évangile de Luc. Luc chapitre 6, verset 27. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Et au verset 35. « Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Alors, ce que je vais dire ce soir n'est pas nouveau, ce sont des vérités que tout chrétien devrait savoir, mais nous avons besoin de répétition, nous avons besoin de réentendre certaines vérités, sachant que les vérités contenues dans la parole de Dieu, ce ne sont pas simplement des connaissances qui s'inscrivent dans notre mémoire, mais ce sont des connaissances qui doivent s'inscrire dans le cœur, et pour qu'elles s'inscrivent dans le cœur ou qu'elles ressuscitent dans notre cœur, nous avons besoin d'une parole vivante qui va nous toucher d'une manière plus particulière le jour où nous l'entendons. C'est pour ça que la parole, le rhéma de Dieu, et non pas le logos, le rhéma de Dieu, c'est ce qui nous fait vivre. C'est pas le logos qui nous fait vivre. Le logos nous communique la vie, la direction à prendre pour rencontrer la vie éternelle et pour connaître celui qui est le Fils de Dieu. Mais par contre, le rhéma, c'est quand Dieu nous touche par son esprit et ça vivifie notre âme ensuite, voire même notre corps. Et ça nous donne de l'élan pour pouvoir vivre la vie que nous avons à vivre. On peut comparer ça à une nourriture, c'est-à-dire que on peut connaître le goût de l'eau. L'eau n'a pas de goût, mais on peut savoir ce que c'est. Mais quand on a vraiment soif et qu'on en boit, on a l'impression d'avoir jamais bu d'eau. Et c'est ça qui nous fait du bien. C'est pas le fait de savoir ce que c'est que l'eau, parce que le savoir ne nous fait pas vivre aujourd'hui. Ce que j'ai bu hier ne peut pas me servir aujourd'hui. Et donc, la parole de Dieu doit être lue, prêchée, reçue de cette manière-là, en fait. Elle doit être vivante. Et donc, on va parcourir un peu ce passage de la première épître de Jean, chapitre 4, où Jean dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Alors, il reprend un commandement que le Seigneur a dit auparavant dans l'évangile de Jean. Hein. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Et cette précision de la part du Seigneur est importante parce que comment Jésus a aimé les siens, ceux qui l'entouraient, on le sait, il les a aimés d'un amour sacrificiel. Et j'aimerais juste rappeler une chose, on le sait, le verbe aimer ou l'amour quand c'est associé à Dieu, à son caractère et à son action, le verbe aimer, c'est autour du mot agapeo ou agapé, et cet amour est très particulier en ce sens que ce n'est pas un amour humain, mais en même temps qu'il est essentiel pour les êtres humains s'ils veulent vivre la vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que c'est cet amour-là que Dieu veut nous voir vivre. Et quelle est la particularité de cet amour ? C'est un amour qui dépend uniquement, et le mot uniquement est à retenir, uniquement de celui qui donne cet amour. Et comme cet amour dépend uniquement de celui qui le donne, cet amour, ça ouvre des perspectives intéressantes dans le sens ça nous donne une entière liberté. Bien entendu, si je n'ai pas la capacité d'aimer de cette façon-là, parce que soit je suis dans la chair, soit je ne suis pas rentré dans cette dimension spirituelle, peut-être je n'ai pas compris certaines choses, il y a peut-être des forteresses dans ma vie, à ce moment-là, je ne suis pas libre, je suis encore prisonnier de ma vaine façon de vivre. En revanche, là où est l'esprit, là est la liberté. Et de quelle liberté il s'agit? C'est que l'amour ordinaire dépend aussi de celui qu'il reçoit, c'est-à-dire qu'il faut que j'aime la personne. Ça peut être la même chose pour un objet d'ailleurs. Si je regarde cet objet, c'est un sous-verre, je peux l'aimer ou je peux ne pas l'aimer. Mais si je l'aime, ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi de lui. Il faut qu'il me plaise. Donc d'une certaine manière, il y a un échange. Et avec les individus, c'est la même chose. J'aime tel collègue de travail plutôt qu'un autre. J'aime ce voisin plutôt qu'un autre. J'aime tel membre de famille plutôt qu'un autre. Donc, j'ai une capacité, c'est vrai, de faire du bien à autrui, mais ça va dépendre aussi de lui. Ce qui fait que si lui ne correspond pas à mes critères, à mes goûts, à mes choix ou à ce que j'attends de lui, à un moment où s'il fait des choses qui me heurtent, du coup, je suis incapable d'aimer. Et donc, je ne suis pas libre. Et or, la vie chrétienne, je le dis, là où il y a l'esprit, il y a la liberté, on est appelé à cette liberté. Et c'est extraordinaire de pouvoir rentrer dans cet amour agapé qui, pour la chair, pour l'être humain, est vécu comme une injustice. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas aimables. Donc, pourquoi je devrais aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, voire même quelqu'un qui est haïssable? Mais si je veux rentrer dans la liberté chrétienne, j'ai la liberté d'aimer un ennemi. Alors que l'amour humain n'a pas la liberté d'aimer un ennemi. Il est prisonnier de ses émotions et de ses sentiments, donc il ne peut, par exemple, que manifester de la haine. Donc il croit faire ce qu'il veut, et d'une certaine manière c'est vrai, je décide de haïr ou je décide d'aimer, et en même temps, oui, c'est sa personnalité et son vécu, mais ce n'est pas vécu dans la liberté, ce n'est pas expérimenté dans la liberté, puisque on subit les circonstances extérieures ou ce que font des personnes en dehors de nous-mêmes. En revanche, la vie chrétienne va nous amener, parce que nous sommes alimentés par la vie de Dieu et par la bonne nouvelle de l'Évangile, va nous donner cette liberté de pouvoir aimer quiconque. Et c'est pour ça que quand... Jean dit au verset 7, donc, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime, dans le sens où c'est cet amour de Dieu qui doit être manifesté. Donc, quiconque aime de cet amour divin est né de Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas venir de lui. Et c'est là d'ailleurs où on n'a pas à se culpabiliser si on vit de façon naturelle, voire dans la chair. Enfin, on peut se sentir coupable, mais il ne faut pas être étonné qu'on n'y arrive pas. Puisqu'il faut être né de Dieu pour expérimenter cet amour inconditionnel. Et entre parenthèses, cet amour vaut pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va s'aimer soi-même, pas parce qu'on est des super hommes ou des super femmes, et on le sait d'autant plus que nous on sait tout ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'on pense, les tensions, les tentations, les échecs. Donc il y a aussi en nous une part de nous-mêmes qui est haïssable et que nous haïssons nous-mêmes, ou que nous n'aimons pas. Mais on peut rentrer dans une liberté qui consiste à s'aimer soi-même. Pourquoi? Parce que nous savons que cet amour qui vient de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes, mais dépend de sa personne. Donc je sais que quoi qu'il arrive, je serai aimé, puisque ça ne dépend pas de moi. Alors que dans nos rapports sociaux, voire même dans l'Église, des fois quand ça reste à un niveau naturel, humain, cet amour dépend des autres et on est limité par nous-mêmes. Donc l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et quand il est dit « Dieu est amour », c'est que Dieu ne peut que aimer. Alors, je précise, évidemment, il y a ce passage dans l'évangile de Jean, celui qui n'a pas reconnu le Fils de Dieu ou n'a pas vu celui que le Père a envoyé, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire qu'au niveau de la relation, Dieu n'est pas en relation aimante avec tout le monde à cause du péché. Et donc, il faut accepter Christ pour recevoir cet amour. Mais Dieu est amour et il aime le monde entier dans le sens où il offre justement la délivrance à quiconque veut recevoir cette délivrance, c'est-à-dire le bénéfice de ce qui a été accompli à la croix, puisque Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Et donc, Dieu est amour et il a envie d'exprimer cet amour. Et là, il le précise, alors l'auteur ne fait pas une exégèse du mot grec, il écrit lui-même en grec, il s'adresse à des gens qui connaissent ce qu'il est en train d'écrire au niveau de la linguistique. Mais au verset 9, il donne cette définition du mot agapé, ou du verbe aimer. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, donc il a été montré, exprimé. Rappelez-vous, Jacques nous dit qu'on ne doit pas aimer simplement en parole, mais en action. Donc l'action de Dieu a été manifestée en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et là, c'est intéressant parce que pourquoi il donne une définition implicite de l'amour agapé ? C'est que le Père a envoyé son Fils alors qu'on n'avait pas envie de recevoir le Fils au départ. On ne voyait pas forcément notre besoin. Regardez au verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, c'est-à-dire que nous étions des gens, des êtres humains qui n'aimaient pas Dieu. Mais cet amour de Dieu a été manifesté envers nous dans le sens où il a envoyé son Fils alors que nous-mêmes nous n'aimions pas Dieu. Et pourquoi le Père a pu le faire ? Parce qu'il aime inconditionnellement. Parce que ça ne dépendait que de lui. Ça ne dépendait pas de notre bonté humaine ou de notre attente envers le Messie. Donc l'amour de Dieu a été manifesté dans le sens où Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous puissions vivre, parce qu'avant on ne vivait pas en réalité. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, parce que si nous avions aimé Dieu avant, Dieu aurait pu aussi nous aimer en retour, mais ce n'était pas l'amour agapé. Ça aurait été un amour humain justement, où il y a un échange. Mais là, ça n'a pas été le cas, puisque nous ne l'aimions pas, mais ça n'arrêtait pas l'amour de Dieu pour autant. Et d'ailleurs, ça, c'est la même chose aujourd'hui. Quand je pêche, ça n'empêche pas Dieu de m'aimer. Quand je l'oublie, ça n'empêche pas Dieu de m'aimer. Parce que Dieu est amour. Et en plus, nous, maintenant, nous avons reçu la justice imputée, et donc il n'y a plus de barrière entre l'amour de Dieu et nous. Et donc, cet amour consiste non point, verset 10, en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jean va le dire par ailleurs, il va dire, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et donc, aimer selon le verbe agapé, c'est aimer en premier, en fait. Vous savez, quand des fois on est enfant, et je sais pas, on nous propose de faire quelque chose. Des fois, il y a des enfants qui veulent rendre service à leurs parents. Allez, qui va aller m'acheter le pain ? Et tout le monde, moi d'abord. On veut être le premier, vous savez. Ben, le chrétien, il devrait presque avoir cette envie, cette volonté de dire, moi, je veux aimer le premier. C'est ça l'amour de Dieu, en fait. C'est aimer en premier. C'est faire le premier pas. C'est s'abaisser peut-être, tout comme Dieu s'est abaissé à notre niveau, et il est même devenu péché pour nous, mais c'est « moi je veux le faire en premier », et c'est ce que Dieu a fait, il nous a aimés en premier. Et ensuite, nous les croyants, ben, nous aimons en premier. On aime en premier quelqu'un que nous ne connaissons pas, nous aimons en premier quelqu'un qui avec qui on a peut-être des tensions, un voisin qui fait du bruit, un collègue de travail qui nous énerve, un membre de famille qu'on aime moins. Mais en tant que chrétien, on dit « non, je veux aimer le premier, c'est moi je veux le faire ». Et puis après, avec une personne que l'on connaît, alors je suis dans l'idée là du séminaire que Pasteur Boyce a donné sur le couple, où le mariage est vite couple, bah, dans un couple, il y a des tensions, mais être spirituel, c'est de dire « ah non, je veux être le premier à aimer ». Je veux être le premier à demander pardon. Je veux être le premier à faire le premier pas. C'est un amour agapé. C'est un amour qui ne dépend pas de l'autre. Qui peut-être, c'est vrai, ne mérite pas que de recevoir cet amour. Mais de toute façon, on ne méritait rien, tous autant que nous sommes. Et donc, nous allons reproduire cet amour de Dieu en nous. Et verset 11, et c'est là qu'il y a le commandement, se précise. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, donc de cette manière inconditionnelle, Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Vous voyez, c'est une mise en pratique de l'amour agapé que nous avons reçu. Et personne n'a jamais vu Dieu si nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alors, parfait, là, vous pourriez traduire par accompli. C'est-à-dire, ça veut pas dire, enfin, c'est un amour parfait, mais ça veut dire parfait en termes de sainteté, mais c'est plutôt en termes de plénitude. Donc, c'est un amour qui est plein, si vous voulez. Il n'y a pas de frustration. Et c'est intéressant, on peut se poser la question au début du verset 12, pourquoi il nous dit « personne n'a jamais vu Dieu ». Quel est le rapport avec le sujet? Bah, là aussi, il y a quelque chose d'implicite, c'est qu'on voit Dieu par l'amour. Donc, personne n'a jamais vu Dieu, et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous, c'est-à-dire qu'en fait, il va rendre visible Dieu. Parce que l'amour accompli, c'est Dieu qui devient visible. Il devient visible dans notre famille, il devient visible dans notre travail, il devient visible à l'église, et c'est ainsi qu'on peut rentrer dans cette dimension-là. Et a fortiori, selon ce qu'on a lu dans Luc 6, versets 27 et 35, on est capable même d'aimer nos ennemis, puisque qu'une personne soit amie ou ennemie, c'est pas le sujet, puisque l'amour agapé dépend de celui qui donne. Qu'en fait, c'est pas un problème que ça soit un ennemi. Alors que quand on est au niveau humain, on peut comprendre que avoir un ennemi, c'est un problème. D'être en conflit avec quelqu'un, c'est un problème. Mais ce n'est jamais un problème avec l'amour agapé. Et là où je dis qu'il y a une liberté qui se rajoute, c'est que du coup, on est moins meurtri. On est moins blessé. On est moins amer. On se sent moins délaissé puisque nous recevons de Dieu une capacité à aimer inconditionnellement sans attendre quoi que ce soit en retour, et ce qui fait qu'on est libre non seulement d'aimer inconditionnellement, mais en plus, on est libre du mal qu'on peut nous faire. Parce que parfois, je le dis souvent à des personnes qui ont eu des conflits avec les parents, avec un mari, avec un mari avec lequel ils ont divorcé, ou des enfants qui n'ont pas été reconnaissants envers leurs parents. Je leur dis, vous savez, faites attention parce que la personne avec qui vous avez eu un problème n'est pas là, mais en fait, vous vivez avec dans votre tête en permanence. Donc en fait, c'est vous qui vous infligez une sanction supplémentaire. Oui, ce que vous avez vécu est douloureux. Oui, on peut prier pour ça, on peut y repenser de temps en temps. Je veux dire, on a de la mémoire, il y a des images qui reviennent. Mais je parle dans le fait d'être affecté émotionnellement par ce genre de situation. C'est en fait presque de notre faute, puisque c'est nous qui alimentons dans notre cœur cette blessure. Et du coup, la personne, elle vit sa vie, elle fait autre chose, elle pense même pas à vous, mais vous pensez à elle en permanence. J'ai même rencontré quelqu'un, un jour, qui était vraiment meurtri et rempli de haine, etc., envers une personne morte. Vous imaginez, la personne est morte. Ben voilà, je veux dire, vous pouvez plus rien faire de toute façon. Mais elle était vivante de façon négative dans la pensée de cette personne. Et du coup, ça engendrait de la souffrance. La personne morte, elle avait peut-être fait du mal, mais là, elle ne faisait rien ni bien ou mal. Elle était morte, mais elle était vivante dans la mémoire de la personne blessée. Et donc Dieu nous appelle à la liberté, à la délivrance. Alors c'est sûr que ça demande de la croix, parce que des fois on a l'impression, à juste titre ou pas, parce que des fois on a tort aussi hein, sur ce que les gens nous ont soi-disant fait, alors que peut-être c'est nous qui avons été subjectifs. Mais en admettant que c'est vrai qu'on a vraiment été peiné et meurtri par quelqu'un d'autre, Dieu nous propose la liberté. Et la liberté, c'est pas forcément de faire valoir nos droits, c'est de nous affranchir des droits que nous aurions perdus. Je pense souvent, moi, à la vie de Joseph. Joseph est un très très bon exemple de cette liberté qu'il avait. Alors qu'il était esclave, prisonnier pendant des années, après, quand il était premier ministre d'Égypte, il avait peut-être un rang qui lui permettait d'avoir un mode de vie intéressant, mais il était quand même prisonnier aussi, parce que c'était pas la vie qu'il aurait forcément souhaité. Il aurait voulu être avec sa famille, en terre promise. Donc, Joseph a été prisonnier toute sa vie, pratiquement. Mais il a été libre. Et pourquoi il a été libre? Parce qu'il était affranchi de cet amour humain qui est limité, qui demande un échange. Et donc quand l'échange ne se fait pas, il y a frustration. En revanche, quand c'est un amour agapé, il n'y a pas besoin d'échange. C'est un don. C'est comme la grâce. on donne. On donne sans chercher forcément à avoir quelque chose en retour. Et c'est ainsi que nous pouvons entrer dans cette liberté. Et Joseph, lui, c'est exactement ça, que ce soit en prison, avec ses compagnons de cellule, avec le geôlier, avec Potiphar, avec Pharaon ensuite, avec ses frères qu'il a retrouvés. Il a toujours béni les autres, il avait la liberté de bénir les autres, et pourquoi il a pu les bénir? Parce qu'il aimait. Il avait cette liberté d'aimer. Il avait la compassion de Dieu qui l'a amené même à pleurer quand il a retrouvé ses frères. Et c'était pas des larmes de haine, c'était des larmes d'amour envers des personnes qui lui avaient fait énormément de mal. Et Jésus a porté ça au plus haut point. Lorsqu'à la croix, il a dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et quand il a souhaité que mourir pour nous afin que nous puissions retrouver la vie, et là c'est ce que Jean dit, il nous dit afin de nous donner la vie, afin que nous vivions par lui. Et ça c'est important parce que, je reviens au verset 9 là, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions. Mais le par lui est important. C'est pas que nous vivions point, mais que nous vivions par lui. Et c'est exactement ça l'amour qu'on doit exprimer. C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit nous en donner la capacité. Donc ça, c'est son action. Donc on va demander l'aide du Saint-Esprit. Mais aussi, ça sous-entend que c'est pas par nous-mêmes, que Dieu ne veut pas faire valoir les droits d'Adam. C'est la vie en Christ qui nous est offerte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une fois qu'on vit en lui, il y a cet amour-là. Cet amour agapé. En fait, Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous puissions vivre tel que nous sommes. Non, pour que nous puissions vivre par lui. Et par lui, ça devient de l'amour agapé. Alors, d'ailleurs, je précise, et vous le savez, mais rien n'empêche de vivre des échanges quand même. Hein. Un frère et une sœur ou un conjoint peut me donner de l'amour inconditionnel et moi j'en donne à l'autre. Donc il y a un échange. Mais j'avais une fois dans un camp d'été fait une prédication sur la grâce. J'avais donné quelques définitions sur la grâce et j'avais expliqué. Alors j'étais sur une pelouse et j'avais fait un peu une chorégraphie pour montrer. Mais là je vais essayer de le faire devant la caméra. Mais si vous voulez la vie naturelle, vous avez deux personnes l'une en face de l'autre. Et l'union ou la rencontre se fait au milieu, donc chacun doit faire sa part. Et si à un moment donné la connexion se fait, là il y a de l'amour, de l'amitié, des échanges, de la communion fraternelle, telle que l'être humain l'entend, non pas Dieu mais l'homme naturel, et donc tout va bien. En revanche, si l'un a fait la moitié du chemin et l'autre non, celui qui a fait de la moitié du chemin reste là où il est. Il va pas faire plus puisqu'il fait lui, ce qu'il pense être sa part, et il attend de l'autre que l'autre fasse sa part. Donc du coup, si l'autre ne fait pas sa part, il y a un trou, il y a pas de rencontre. Ce qui fait qu'il y a des gens qui parfois pendant des années, voire toute une vie, ils peuvent, parce que les deux font leur part, vivre des choses qui sont belles. Ça ne veut pas dire que c'est l'amour agapé. Il se trouve que humainement, ça marche. Tant mieux pour eux, mais c'est complètement aléatoire en fait. C'est pas quelque chose de garanti. Ça ne veut pas dire qu'ils sont libres. Simplement, deux personnes limitées dans leur expression de l'amour se sont rencontrées. Mais la plupart du temps, et on le voit autour de nous, les divorces, les tensions, la haine, etc., c'est que vous avez une personne qui fait peut-être une part du chemin, l'autre en fait une petite part aussi, mais pas suffisamment, et donc la rencontre ne se fait pas. Alors que la grâce, c'est je vais à la rencontre de l'autre, même s'il ne fait pas un pas vers moi. Et donc, je fais tout le chemin et je n'attends rien de lui puisque c'est un amour qui dépend de moi. Et la vraie communion fraternelle, c'est quand l'autre fait aussi tout ce chemin en parallèle, si vous voulez, mais dans le sens inverse. Et en fait, ça devient une unité. C'est pas une rencontre naturelle où les deux personnes se touchent, mais elles vivent quelque chose parce que les deux vont jusqu'au bout. Les deux font, le chemin en entier. Alors, évidemment, nous, dans l'expression naturelle des choses, on va dire, alors ils se sont croisés, ils se sont pas rencontrés. Non, non, justement, dans la vie chrétienne, ça devient une vie qui vient d'en haut, quand on agit ainsi. Donc, Christ, il est venu jusqu'à nous, à la croix, alors que on ne l'a pas aimé en premier, alors que on était dans nos péchés, mais il est venu jusqu'au bout, au point de venir pécher à notre place. C'est-à-dire qu'il a fait vraiment tout le chemin, c'est ce qu'on appelle l'œuvre accomplie. Et ensuite, la vie chrétienne, là je parle de ma relation avec Dieu, et cet après-midi j'ai enseigné, j'ai parlé de, vous savez, dans l'effet de Apocalypse 2 sur l'Église d'Éphèse, qu'elle avait oublié son premier amour. Mais le premier amour que nous devons avoir, aimer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme, c'est de faire le chemin vers Dieu autant que faire se peut, parce qu'on est limité bien entendu, mais dans notre façon de voir les choses, le regard qu'on doit avoir sur cette vie de foi, c'est d'aller vers Dieu sans condition, sans que forcément il réponde à nos prières, sans qu'il fasse quoi que ce soit. On l'aime du même amour que lui il a eu pour nous. C'est-à-dire qu'on va servir Dieu avec un esprit de sacrifice s'il le faut. On va aller jusqu'au bout sans attendre forcément un retour, sachant qu'il y en aura un. Luc 6, 35, Jésus le dit, « Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut ». Mais ce point est important, c'est-à-dire que je vais vers Dieu, ça m'empêche pas de prier pour lui, mais je prie pour moi, je veux dire, je prie pour mes besoins, etc. Mais les réponses à mes prières ne sont pas une condition pour que je puisse moi l'aimer ou je puisse aller vers lui. J'y vais même s'il ne fait rien pour moi. On a l'expression de cet amour avec les amis David. Vous savez, quand ils doivent être passés par le feu, ils disent, mais Dieu peut nous délivrer, mais en même temps, Dieu, il fait ce qu'il veut. Si on doit mourir, on mourra. En fait, ils exprimaient un amour pour Dieu entier, une dévotion à Dieu entière. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de condition. Et c'est pour ça que le roi n'avait pas de prise sur eux. Le chantage ne pouvait pas marcher. Et donc, ces hommes-là étaient libres. Vous voyez, encore une fois, on rentre dans cette notion de liberté. Et alors évidemment, quand je dis ça moi-même, dans le quotidien, dans les rapports avec les autres, des fois je peux être tenté ou il peut y avoir un combat parce que j'ai pas envie de lâcher prise. Il y a l'ego, le moi, enfin voilà, on est ce qu'on est. Mais on doit fléchir le genou devant la vérité divine en disant, si lui est mort pour moi, moi je vais d'une certaine manière me sacrifier pour les autres de la même manière. Je vais être entier, je vais aller jusqu'au bout alors que l'autre n'a peut-être pas fait un seul pas en avant vers moi. Et je vais vivre vraiment dans une très grande liberté. Et d'ailleurs, ça évite la manipulation, ça évite le calcul, et du coup, c'est beaucoup plus facile à vivre. Ça s'appelle un œil simple. Un œil simple. Et regardez la fin du verset 35 de Luc 6, car en parlant de Dieu, Jésus parle de son Père, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est extraordinaire, hein, ce passage. Dieu est bon pour les ingrats et les méchants. Alors évidemment, je parle de cette existence-là. S'ils n'acceptent pas Christ, cette bonté divine, ils vont passer à côté pour l'éternité. Mais là, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Donc si Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants, alors qu'il est Dieu et sans péché, et que ces gens-là devraient l'adorer, moi, qui ne suis qu'un être humain et qui suis leur égal, est-ce que je peux pas être bon pour les ingrats et pour les méchants? Ah, bien sûr que si. Et donc, voilà, c'était une simple pensée sur ce que doit être la vie chrétienne. C'est le fondement de la vie chrétienne, enfin un des fondements, j'aime pas dire le fondement parce qu'il y en a plusieurs en réalité, mais c'est un élément essentiel de la vie chrétienne qu'on a des fois au bout de certaines années tendance à oublier. Oui, nous savons que l'amour fraternel, l'amour chrétien, c'est important. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas des fois à rabaisser le standard? Et la communion fraternelle, ce ne sont peut-être que des rencontres où il y a des échanges, où ça nous va très bien, on a des amis qui nous ressemblent, mais est-ce que je suis capable dans l'Église d'aimer quelqu'un qui ne me ressemble pas? Est-ce que je suis capable d'exprimer cela? Et donc c'est un défi, mais en même temps c'est le cœur de Dieu, parce que il va même jusqu'à aimer les ingrats et les méchants. Que Dieu vous bénisse.